Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 53 et le titre sera « Christ guérit encore ». La religion et la médecine. Mais cette série numéro 53, 54, 55 et numéro 56 seront des études très élaborées pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chercher dans la Bible toutes les citations bibliques au sujet de la guérison. Donc c'est un peu particulier, mais très élaboré et également centré 100% sur la sainte parole de Dieu, même si je ne vais pas vous donner un nombre important de citations bibliques comme précédemment. Une fois de plus, le don de guérison a saisi l'attention de l'Église chrétienne. Bien sûr, l'Église a toujours été intéressée par la guérison, comme l'évêque de Bradford l'a rappelé à un des dirigeants spéciaux du Labour Party, lors d'une des plus mauvaises émissions de ce dernier au sujet de nos insuffisances. Dans notre pays et outre-mer, nous étions jadis des pionniers dans le domaine hospitalier et celui des lois concernant la réforme du milieu thérapeutique. Cependant, à cause de la croissance et de la professionnalisation de la médecine moderne, un abysse s'est ouvert entre la religion d'un côté et la médecine et les membres du corps médical de l'autre côté, à nous faire croire que la guérison était exclusivement du domaine du naturel et que rien ne serait d'ordre surnaturel. Aujourd'hui, il est considéré comme une violation du statut professionnel quand un médecin et un pasteur ont un rapport de véritable coopération au niveau de la thérapie. Jadis, les pionniers essayaient de faire un pont au-dessus de ce fossé. Et nous, nous rappelons bien du travail du comité de guérison dans notre Église à ce sujet-là. Le point commun pour créer ce lien entre religion et médecine se trouve dans le domaine de la guérison psychologique. Cela pour plusieurs raisons. Voyons cela de plus près. Premièrement, nous avons les troubles psychologiques et les névroses. Évidemment, c'est ici où la religion et la médecine se touchent. La psychologie a établi une longue liste de troubles psychologiques et de névroses dont le traitement dépend de l'affluence d'une nouvelle vie dans la foi et de la sérénité spirituelle. Il n'est donc pas difficile de comprendre pourquoi un vrai psychiatre doit être un pasteur de l'âme, ou devrait pouvoir l'être, et pourquoi ses patients ont besoin d'aide spirituelle. Deuxièmement, nous avons les troubles fonctionnels et organiques. Les troubles dont les manifestations physiologiques sont peut-être les symptômes d'un trouble mental ou spirituel, sont appelés troubles fonctionnels. Tant qu'il n'y a pas de destruction de l'organisme ou des tissus, on considère qu'un traitement du mental ou du spirituel peut faire partie de la thérapie. Mais il semblerait que ceux qui s'occupent de la liaison entre religion et médecine auraient conclu un « gentleman's agreement », c'est-à-dire un pacte tacite dans le sens où la guérison organique dépasserait la sphère de la guérison spirituelle et qu'un os cassé ou un tissu malade dépasserait le domaine de la nature plus haute, que la guérison physiologique ne sera seulement rétablie par les forces normales déterminées par la science. Troisièmement, nous avons le rationalisme à l'intérieur de la psychologie religieuse. La conception de l'esprit implique que nous devons bien comprendre certaines idées de la guérison. Ceci est une approche tout à fait rationaliste. L'esprit et la pensée. On voit sa réalité par le moyen des idées conscientes ou inconscientes, induites dans l'esprit du patient. Ainsi, l'esprit s'émancipe de la terreur de la mort. Vous connaîtrez la vérité, est-il dit, et la vérité vous affranchira du péché ainsi que de l'erreur et de la maladie. Cette conception limitée du ministère de la guérison s'apparente d'ailleurs à la science chrétienne, et c'est une conception platonique qui ignore, on peut dire, l'idée aristotélique de la cause divine étant une puissance créatrice qui agit et surtout qui agit à travers d'autres canaux que celui de l'idée ou simplement de la pensée. Il y a donc un nouvel intérêt pour la guérison divine à cause de son élément irrationnel. La puissance de guérir sert d'intermédiaire à d'autres canaux que ceux de l'esprit. Que celui qui doute de cela se demande ce qui se passe quand des personnes prient pour le malade. Faut-il croire que ces prières-là ne sont efficaces que si le patient sait qu'on prie pour lui, ou encore quand il commence à avoir la foi? La prière est-elle une libération et est-elle la transmission d'énergie surnaturelle, de guérison, à quelqu'un par le canal simplement de l'esprit? Ensuite, il y a, bien sûr, la question de la signification de l'imposition des mains ou de l'onction d'huile. Peut-on se satisfaire de l'explication rationnelle habituelle que leur valeur thérapeutique ne serait que d'ordre psychologique, que leur fonction était de capter totalement l'attention du patient pendant la prière et de rétablir des pensées divagues et une foi hésitante? Ou est-ce que c'est Dieu qui prend les mains du guérisseur, qu'elles soient le moyen direct de la transmission de ses dons et de ses énergies de guérison? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont une habilité spéciale pour faire une telle transmission? Peut-être. Si cela était le cas, devrait-elle obéir à ce pacte entre les hommes d'après lequel on ne pourrait que guérir les troubles fonctionnels? Un diagnostic serait donc nécessaire pour aider de faire la distinction entre troubles fonctionnels et troubles organiques. Quelles prétentions de ceux précisément qui se sont aventurés dans le domaine où la guérison spirituelle n'est pas limitée aux canaux intellectuels, eh bien, on prétendrait que sa puissance de guérir serait limitée aux troubles fonctionnels. Dieu, voyez-vous, fonctionne de façon totalement différente. Les os cassés et les tissus mauvais peuvent vraiment être réparés par la transmission de l'énergie de guérison. Les preuves s'entassent avec une telle constance que la nécessité d'en faire l'expérience surgit chez ceux qui doutent de la possibilité d'une telle guérison et essayent de maintenir la vieille distinction entre le fonctionnel et l'organique en médecine. À une certaine époque, on essayait de distinguer entre le ministère physiologique moderne et le plus ancien ministère, c'est-à-dire celui de la prière et de l'imposition des mains. On ne devrait pas avoir besoin de dire qu'on ne pense jamais à les placer l'un contre l'autre, car toute guérison vient de Dieu, et tous ceux qui ont le don de guérison sont vraiment les serviteurs, ou sont, on peut dire, les serviteurs qui sont au sanctuaire de Dieu, vraiment. Même si quelqu'un ou quelques-uns sont comme des pontifes aveugles, ils le sont tout de même. Il faut cependant noter que ceux qui se sont familiarisés avec le ministère de guérison du type psychologique se sont rendus tout à fait inaptes à juger la valeur de l'autre forme. Premièrement, leur conception de l'esprit est beaucoup trop rationaliste. Et deuxièmement, ils sont tellement, on peut dire tellement influencés par la croyance populaire, non vérifiée du reste, qu'il y a un grand terrain vague entre les troubles fonctionnels et organiques. L'esprit pourrait se prévaloir de guérir les troubles fonctionnels, mais n'aurait pas les moyens de restaurer les troubles organiques. Une des meilleures choses du don de guérison qu'on a découverte est la lumière qu'elle met sur les textes bibliques et sur les phénomènes paranormaux dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Plusieurs générations de théologiens ont voulu plutôt expliquer les miracles de Jésus dans les termes de la psychologie moderne. Voyez-vous, on a voulu dire que Jésus ne guérissait que les troubles fonctionnels et psychologiques. Les événements qui refusaient de céder au solvant du rationalisme psychologique étaient considérés occultes et issus du folklore et même des légendes. Par exemple, quand Christ marchait sur la mer, il y en a qui disent qu'il n'aurait pas été soutenu par une puissance supraphysique de lévitation, mais par simplement un banc de sable peu profond dans l'eau du lac. À la suite d'expériences récentes concernant la guérison et les phénomènes apparentés, on retourne à la Bible avec un nouvel intérêt. Il y a par exemple l'étrange incident de la femme qui a touché Jésus dans la foule. Or, immédiatement, Jésus s'arrêta et demanda qui l'avait touché. Quand les disciples lui dirent que tout le monde le touchait, il répondit que non, que c'était totalement différent, qu'il avait su aussitôt qu'une certaine force était sortie de lui. C'est du reste exactement l'expérience de ceux qui ont le don de la guérison aujourd'hui. Il fait l'expérience d'une sorte d'énergie de guérison. Pensez un peu aux implications de ce fait en rapport avec la connaissance que nous avons du Saint-Esprit. La rayonnante et créatrice énergie de Dieu s'écoulait de l'être entier du Christ. Il devenait le canal de transmission qui transmettait la puissance de la vie aux autres. D'ailleurs, pensez à ces paroles. Souvenez-vous, il a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ou encore, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture sainte. Il parlait là du Saint-Esprit. Nous avons toujours cru qu'en lui, nous aurions la vie, le mouvement et l'être. Mais voyons ce que nous venons de découvrir concernant le don de la guérison. Nous apprenons à pratiquer dans une énergie totalement nouvelle. D'être baptisé par le Saint-Esprit veut seulement dire que nous avons reçu certains dons, tels que le don de guérison, entre autres. Ce n'est que l'écoulement de la divine sagesse et de la vérité. C'est une énergie vivante qui peut pénétrer chaque cellule du corps. Le Saint-Esprit refuse toute départementalisation. Il ne connaît aucune frontière entre le fonctionnel et l'organique, entre corps et esprit, car il est le Seigneur de toute la vie. Pensez aux phénomènes psychiques, à ces phénomènes qui s'étaient manifestés au moment du baptême de notre Seigneur, ou encore au feu de la Pentecôte. Une petite flamme vacilla autour de la tête de Jésus. Les observateurs parlaient d'une colombe ou d'une langue de feu. Dans le halo, on peut dire, se trouve un fait absolu. Ce ne sont que les symboles d'une seule et unique chose. Il existe en effet une essence supraphysique qui devient visible dans les moments d'intensité spirituelle. Au moment de la plus grande intensité, le corps entier rayonne jusqu'à ce que ma partie mortelle soit irradiée par le feu divin. Ce n'est qu'une métaphore. Cela est arrivé à notre Seigneur sur la montagne de la Transfiguration et à quelques-uns de ses disciples qui étaient remplis d'esprit. Que peut-on dire au sujet de la résurrection du corps. Comment les morts ressuscitent-ils? Et quel corps auront-ils? Avec le corps de la résurrection, ou, bien entendu, on peut dire j'ai foi en la résurrection, non pas en la réincarnation, ni en la réanimation, comme dans le récit de Lazare, car c'est pas pareil. Il s'agit d'un nouveau corps dans la résurrection, d'une forme similaire, d'une apparence apparentée, avec une gloire qui transfigure et une substance qui est supraphysique, c'est-à-dire habillée du Saint-Esprit. Par le phénomène de l'expérience physique, un aperçu de l'immortalité nous est donné. Je connais un homme en Christ, dit Saint Paul. Si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Et il fut ravi jusqu'au troisième ciel. Seulement ceux qui sont emprisonnés dans une cage par un moule ancien de science et psychologie qui peuvent douter que de telles choses se soient passées et se passent encore aujourd'hui. Oui, cela est encore possible. Nous discutions beaucoup la vision sur le chemin de Damas. Nous nous demandions si cette expérience n'était que subjective, sans aucune réalité objective ou la substance même du Christ ressuscité. Aujourd'hui, je me demande surtout pourquoi on pense que c'était une chose incroyable que Dieu ressuscitera les morts et si cela est vraiment vrai. Or, c'est absolument vrai. Voyez-vous, pourquoi doutons-nous de la possibilité de la naissance par une vierge? Oui, pourquoi est-ce si difficile d'avoir foi en la possibilité de parler en d'autres langues ou de discerner les esprits? Pouvons-nous ignorer l'importance d'un phénomène tel que la télépathie ou la prophétie dans la vie de notre Seigneur? Quand il exorçait les esprits, devons-nous céder aux explications d'une psychologie contemporaine plutôt que de considérer la possibilité vraiment d'une personnalité qui est possédée et captivée par des esprits impurs? Quand on va si loin dans la reconsidération de la Sainte Bible, ne faut-il pas crier? Nous ne savons pas tous de quel esprit nous sommes faits. Nous avons commencé par examiner ce que le don de guérison impliquait. Puis nous avons prêté l'attention à l'étude des expériences paranormales de Jésus et de ses apôtres dans le Nouveau Testament. Nous avons suggéré que tous les efforts de les expliquer uniquement dans les termes de la psychologie moderne ont totalement échoué et que nous devons faire une approche beaucoup moins indifférente et beaucoup plus positive, d'accepter comme une réalité les guérisons et les autres événements étranges du Nouveau Testament et de nous demander quelle lumière il jette vraiment Primo. Cette lumière qu'il jette sur la nature du Saint-Esprit. Secondo. La nature de l'esprit de l'homme. Et tierzo. La nature de la prière. Premièrement, nous avons donc la nature du Saint-Esprit. Voyez-vous, les Écritures donnent beaucoup d'attributs au travail du Saint-Esprit de Dieu, car il est l'esprit de la sagesse et de la vérité. Il est l'esprit de la sainteté et la pureté. Il donne les 7 dons dans le caractère de l'homme. Il est aussi l'esprit de la direction et de la protection. Mais en dehors de ces choses, il est dynamis, c'est-à-dire l'esprit de la vie et de la puissance. Et c'est par l'attribut de son essence que nous sommes appelés à faire acte de foi en le don de la guérison. Nous avons déjà évoqué que la génération actuelle a souffert d'avoir mis l'accent trop sur les aspects intellectuels de l'activité du Saint-Esprit. Il est facile d'avoir foi en un esprit qui nous procure la joie de pensées élevées. Et il s'agit là d'un sens sublime de quelque chose qui nous dépasse. Oui, quelque chose qui ne nous est pas si familier que ça. On est même prêt, en s'appuyant sur Platon, à accepter un esprit dont l'habitation, serait tout simplement la lumière des soleils couchants, et que l'esprit serait alors la forme intérieure de la beauté de toute chose. Mais, voyez-vous, quand il y a des écoulements qui peuvent guérir même les os cassés, qui peuvent ressusciter Lazare de la mort, bouleverser les fondations de la maison, on est complètement en dehors de toute profondeur intellectuelle. La génération actuelle n'a pas appris à comprendre tous les aspects de l'Esprit Saint. Peut-être faut-il de nouveau s'adresser à ce savoir-là. Peut-être que Dieu nous amène ou nous amènera dans cette direction par l'imposition des mains. Deuxièmement, nous avons la nature de l'esprit de l'homme. Voyez-vous, l'esprit de l'homme, oh, quel thème ! Nous savons bien que l'esprit de l'homme est emprisonné. Il reste tout à fait attaché au péché et à la nuit de la nature. Et nous savons également que le chaos se remplit de lumière, que les chaînes tombent pour que nous puissions avancer en étant des nouveaux hommes en Christ. Néanmoins, même ici, l'accent est beaucoup trop posé sur la psychologie moderne de l'inconscience qui nous amène à essayer de comprendre le miracle par des termes définis et excessivement intellectuels et rationnels. Nous pensons que l'écoulement de l'énergie vient du mot « parler ». L'esprit incite et l'inconscience qui s'est émancipée. Que veut dire cet incident à Éphèse qui est décrit dans les Actes des Apôtres où l'apôtre Paul demande avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Recevant une réponse négative, il leur imposa les mains et immédiatement ils reçurent le Saint-Esprit par des manifestations du Saint-Esprit qui ne consistent pas seulement du parler en langue. Peut-être que régénération veut dire renaissance de l'entière nature de l'homme, c'est-à-dire corps, intelligence et esprit. Et quand la nouvelle vie est instaurée en nous, eh bien les manifestations en sont très différentes. Quelques-unes seraient plutôt du côté psychologique. Troisièmement, nous avons la prière et le Saint-Esprit. Nous entrons là dans un vaste domaine de spéculation. La façon habituelle de prier, c'est d'envoyer une pétition au Seigneur. Dieu reçoit ses messages et il envoie sa puissance à l'endroit nécessaire. À part demander, nous ne prenons pas part dans ce procédé. La Sainte Bible propose un mode différent de prier. D'abord, nous n'en sommes pas les initiateurs. Dieu lui-même est la source de toute vie. Il est la source de toute sagesse et de toute puissance. Et c'est lui l'initiateur de toutes choses qui sont bonnes. Quand nous prions, eh bien, c'est en quelque sorte, on peut dire, parce que le Saint-Esprit, tout simplement, nous incite une telle activité. On sait très bien comment on doit prier, mais l'Esprit-Saint vient, et vraiment, l'Esprit-Saint vient à notre aide. Et comment ? Ce qui se passe est qu'au moment de la prière, les rayons célestes de la sagesse, ainsi que de la vérité et de l'amour, passent par le prisme de la personnalité avec l'énergie céleste et de toute sa puissance. La fonction de la prière est donc de concentrer et diriger l'énergie divine à l'endroit nécessaire. Si cette conception est correcte, eh bien la prière est elle-même une énergie, non seulement un message. Cela ne suffit pas de se voir comme le télégraphiste qui transmet des messages à Dieu. On est la radio locale qui transmet le programme céleste de Dieu. La prière est une puissance créative, car au moment de la prière, le Saint-Esprit emploie nos personnalités entières pour incarner sa volonté sur la terre. Ceci a de très importantes implications, d'abord sur notre façon de prier, et puis sur les différents types de prières. Il semble donc naturel de compter sur l'efficacité de la prière. Elle dépend de la façon dont nous prions. Beaucoup de personnes ignorent ou presque le facteur de la technique de prière, la posture, l'état physique, le jeûne peuvent également jouer un rôle quand le Saint-Esprit utilise tout le corps, toute l'intelligence et l'esprit pour sa transmission. Est-il vrai que nous avons différentes capacités à transmettre plusieurs types de prières en accord avec des personnalités différentes, pas avec le cerveau seulement, mais avec l'assistance de l'Esprit Saint? L'homme adore son Créateur. Parmi les types de prières, il y en a une qu'on néglige depuis longtemps, mais qui s'est encore une fois révélée dans l'Église chrétienne. C'est la prière de la guérison, l'habileté de transmettre la puissance de guérison par l'imposition des mains, tout simplement. C'est une sérieuse et formidable révélation. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, nous dit la sainte parole de Dieu. Chers amis, nous allons terminer cette très courte étude maintenant pour reprendre ensuite l'étude numéro 54 où nous verrons le modèle de la guérison qui sera, disons, une étude très très importante pour tout un chacun. Nous allons maintenant donc, comme je l'ai dit, terminer par la prière. Seigneur Dieu, rempli de compassion, béni sois-tu, car nous savons, oui, nous savons, si nous venons à toi sincèrement et humblement, tu ne repousses pas celui ou celle qui invoque ton saint nom. Oui, touche de tes mains guérissantes cette personne qui n'a plus assez de courage et dont la foi a décliné due à la trop longue lutte contre la maladie et la souffrance. Je te demande de mettre ta main guérissante et pleine de compassion et d'amour sur cette personne. Tu nous as enseigné dans ta sainte parole que nous, qui sommes co-héritiers avec toi, tu nous donnes le droit d'ordonner à la maladie de quitter cette personne par le tout-puissant nom de Jésus-Christ que Dieu le Père t'a donné pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de notre corps. Nous te demandons de nous purifier et de nous sanctifier afin de devenir des témoins vivants de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour. Nous invoquons également ton sang précieux sur quiconque se confie en toi maintenant pour le protéger, pour la protéger contre toute attaque de l'ennemi. Nous te louons et nous t'honorons, toi, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Amen.